Chers camarades et amis, avant de discuter de la situation politique, je tiens à m'exprimer sur les ignobles attentats qui ont frappé des centaines de personnes hier soir à Paris, dont 128 morts, je crois, au dernier chiffre. Je vais vous lire le communiqué de Nathalie Arthaud. Un massacre atroce et inqualifiable. Massacrer des gens dans une salle de spectacle, dans des bars et des restaurants aux abords d'un stade. Ceux qui ont perpétré hier plusieurs attentats à Paris et à Saint-Denis ont voulu faire le maximum de morts aveuglément. Ces attentats sont des actes ignobles. Nous exprimons notre émotion et toute notre solidarité avec les victimes et avec leurs proches. Quelles que soient les idées dont se réclament ceux qui ont perpétré ces attaques, ce sont des ennemis de tous les travailleurs. S'il se confirme qu'il s'agit d'islamistes, leur violence procède de la même barbarie que celle des djihadistes syriens ou irakiens qui cherchent par la terreur à mettre en coupe réglée des populations entières, à réduire les femmes en esclavage et à liquider tous ceux qui ne pensent pas comme eux. L'horreur des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis renforce ceux que leurs auteurs prétendent combattre. Ils renforcent l'État français qui instaure l'état d'urgence et accroît les mesures policières. Ils renforcent l'extrême droite, ses discours haineux vis-à-vis des musulmans et des immigrés et sa revendication d'un État plus fort. Nous partageons entièrement l'émotion de la population et en particulier de tous les proches des victimes de ces attentats. Mais nous n'avons aucune solidarité avec l'État français et avec les dirigeants politiques. Ceux-ci ont une large part de responsabilité dans les guerres qui ensanglantent aujourd'hui le Moyen-Orient, des guerres dont Paris a eu hier soir un écho sanglant. C'est pourquoi Lutte ouvrière n'ajoutera pas sa voix au concert de l'unité nationale. Nous ne partageons rien avec les Hollande, les Sarkozy et les Le Pen. Toute notre solidarité va aux victimes et à leurs proches. Nous poursuivrons notre combat pour un monde débarrassé de l'obscurantisme, de l'injustice, de la domination impérialiste et de tous ses avatars. Bon, ben on va passer aux élections. Tout indique que les élections régionales vont être une nouvelle gifle pour le Parti socialiste. Et cette déroute, le PS au gouvernement ne l'aura pas volée. Tant il a renié les rares promesses qu'il avait faites et trahi tous les espoirs que les classes populaires avaient mis en lui. Sous Hollande, comme sous Sarkozy, le monde du travail a vu ses conditions d'existence se dégrader. Combien de familles ont plongé dans la pauvreté parce qu'un ou plusieurs membres sont au chômage? Combien vivent dans la hantise d'un plan social, euphémisme utilisé par les patrons pour désigner un plan de licenciement ou la fermeture d'une entreprise? Combien de jeunes des milieux populaires commencent leur vie active en alternant petits boulots, missions d'intérim et période de chômage forcé sans aucune perspective d'avenir? Quant à ceux qui ont un emploi, il faut être disponible 24 heures sur 24, accepter les heures supplémentaires, accepter de travailler les dimanches ou les jours fériés pour chômer quelques mois ou quelques semaines plus tard. On nous dit que c'est la crise et qu'il faut accepter des sacrifices. Non seulement les grandes entreprises Peugeot, PSA, Sanofi, Dassault, Michelin, ST Microélectronique et compagnie ne souffrent pas de la crise, mais au contraire, elles voient leurs profits s'accroître. Pour prendre l'exemple du groupe pharmaceutique Sanofi, un des plus rentables du pays, il a réalisé 7 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier et n'a payé aucun impôt, puisque l'État l'a gratifié dans le même temps d'un crédit impôt compétitivité emploi de 150 millions d'euros. Eh bien, à peine le dernier plan de suppression d'emplois terminé, Sanofi vient d'annoncer qu'il supprimera encore plusieurs centaines d'emplois chaque année d'ici 2020. Et on pourrait multiplier les exemples. Dans notre agglomération, ST Microélectronique, cette entreprise high-tech qui a reçu l'an dernier 25 millions d'euros d'aide de la part de la région Rhône-Alpes, s'apprête à annoncer plusieurs centaines de suppressions d'emplois, dont une grosse partie touchera le site de Grenoble. Et malgré cela, elle exige que le plan d'aide publique décidé pour les années à venir soit maintenu. Au total, la somme astronomique de 1 100 000 euros. Rares sont les grands groupes de l'agglo qui n'ont pas annoncé de plan de réduction d'effectifs. Areva Jarry, Becton, Hewlett-Packard, Vancores, l'usine chimique de Pontclé, Caterpillar et d'autres. À tel point que bien souvent dans une même entreprise, les plans de licenciement s'enchaînent les uns après les autres, avec des conditions de travail qui se dégradent pour ceux qui restent. S'ajoutent tous les emplois induits qui vont disparaître dans les petites et moyennes entreprises qui travaillent pour ces groupes mondiaux. Combien de licenciements dans le silence, à commencer par ceux de tous les intérimaires et CDD. Voilà pourquoi, pendant que les possesseurs de capitaux, les capitalistes s'enrichissent, ceux qui font fonctionner la société, les travailleurs, sont poussés de plus en plus vers la pauvreté. Ces grandes entreprises vivent au crochet des budgets publics. Pour les assister, à coups de milliards, les gouvernements suppriment eux aussi des milliers d'emplois publics et baissent les moyens dans l'éducation nationale, les hôpitaux, les transports, à la poste, etc. L'État met aussi les collectivités locales à la diète en réduisant de manière drastique leurs dotations. Non seulement Hollande et ses ministres n'ont rien fait pour enrayer l'hémorragie du chômage et la dégradation du sort des classes populaires, mais ils se sont au contraire attelés à les aggraver. Depuis plus de 3 ans, Hollande a mis ses pas dans ceux de Sarkozy pour satisfaire toutes les exigences du patronat. En 2013, avec la loi de sécurisation de l'emploi, il a permis aux patrons d'introduire encore plus de flexibilité dans le temps de travail et de nouvelles baisses de salaire. Au début de l'été, la loi Macron a facilité les procédures de licenciement, généralisé le travail du dimanche, restreint les prérogatives des prud'hommes. Le MEDEF en redemande. Qu'à cela ne tienne, Hollande, Valls, Macron et leurs amis s'emploient à les satisfaire. Valls vient de confier à Robert Badinter, l'ex-ministre de la Justice de Mitterrand, la mission de réécrire le Code du travail. Badinter s'est fait connaître pour avoir supprimé la peine de mort. Il restera probablement dans la postérité pour avoir exécuté les droits des travailleurs. La mission de Badinter est de remplacer la loi générale qui s'appliquait à tous les salariés par des accords locaux d'entreprise signés par des syndicats complaisants pour définir les salaires, les conditions de travail, bref, toute la vie des travailleurs au sein des entreprises. C'est déjà ce type d'accords locaux, baptisé accord de compétitivité, qui a permis aux directions de Renault ou de PSA d'augmenter le temps de travail et de supprimer des RTT tout en bloquant les salaires. C'est ce type d'accord qui a permis à la direction de Smart en Lorraine de faire le chantage grossier du style « où vous acceptez de travailler 39 heures, de perdre des jours de RTT, ou on supprime des emplois ». Avec ces accords, les patrons gagnent sur tous les tableaux. Ils rallongent le temps de travail, ils augmentent la productivité et ils suppriment quand même des emplois. Dans les faits, il y a belle lurette que les patrons ont trouvé le moyen de contourner la loi quand elle les dérange. Mais cette fois, le gouvernement va leur faciliter la tâche. Mais cela ne leur suffira pas. Ils en redemanderont encore et toujours. À un mois des élections régionales, Hollande et Valls ont fait volte-face devant la stupeur des retraités modestes devant payer pour la première fois des impôts locaux dont ils étaient jusque-là exonérés. Hollande prétend que si les veuves ont perdu la demi-part fiscale qui leur évitait de payer ces impôts locaux, c'était à cause d'une mesure prise par Sarkozy. Mais depuis 3 ans, non seulement le PS ne l'a pas annulée, mais il en a rajouté une couche avec diverses mesures qui, mises bout à bout, font que les anciens paient plus d'impôts. Valls et Hollande voulaient encore faire les poches des handicapés. Ils avaient prévu de rogner les 800 euros d'allocation adulte handicapé, allocation minimum, en défalquant les intérêts annuels de ceux qui avaient quelques économies sur un livret A. À la veille des élections, ils y ont renoncé. Mais que dire de l'accord scélérat sur les retraites complémentaires qui va obliger les salariés à travailler jusqu'à 63 ans s'ils veulent partir sans décote? Cet accord illustre à la perfection ce que le PS et le MEDEF entendent par le dialogue social. Leur dialogue social, c'est le chantage patronal. Soit vous acceptez de travailler un an de plus, soit vous perdez 10% de votre retraite. Leur dialogue social, en fait, c'est une régression sociale. Hollande et Valls ont le même cynisme, le même mépris de classe qu'un Sarkozy. Alors oui, les classes populaires ont bien raison de se détourner du Parti Socialiste. Le PS va subir une déroute électorale. Mais le système électoral, dans ce pays, est fait de telle sorte qu'il sera remplacé à la tête des régions par une autre des autres écuries politiciennes qui se disputent le pouvoir. Jusqu'à ces dernières années, il y avait l'alternance entre deux partis, l'UMP, devenu les Républicains, et le Parti Socialiste, flanqué des écolos, des radicaux et, de façon plus ou moins nette, du Front de Gauche. Avec la montée du FN, avec l'usure rapide des partis au pouvoir en cette période de crise, le bipartisme a laissé la place au tripartisme. Mais cela ne change rien de fondamental pour les travailleurs. Pour gagner les élections, pour élargir son électorat, le FN s'est mis à draguer les ouvriers et les classes populaires. Sur son fonds de commerce traditionnel, toujours présent, la haine des étrangers, le racisme anti-immigré ou anti-musulman, Marine Le Pen a adopté son discours et développé quelques couplets sur les travailleurs pauvres, français bien sûr, qui travaillent dur et sont mal payés. Elle est allée jusqu'à promettre le retour à la retraite à 60 ans et le SMIC à 1500 euros. Oh, elle a toujours pris soin de rester floue sur la mise en œuvre de ces mesures. Mais pour ne pas voir s'éloigner son électorat de petits patrons réactionnaires, le FN vient de changer une nouvelle fois son discours. Comme l'écrivait le journal Le Monde du 5 novembre, soucieux, je cite donc, soucieux de séduire les électeurs de droite, les dirigeants frontistes mettent les revendications sociales et la sortie de l'euro sous l'éteignoir. Le même journal titré « Opération séduction du FN en direction des patrons ». Plus le FN se rapproche de la mangeoire, ne serait-ce qu'à l'échelle des régions, plus il revient à un discours de droite bien classique, car il cherche à rassurer les patrons. Christophe Boudot, qui conduit la liste du FN dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre région, a bien pris le tournant. Il ne rate pas une occasion de vanter les chefs d'entreprise présents sur sa liste. Tout comme ses deux concurrents, Vauquier ou Kéran, il promet aux patrons de nouveaux chèques. Il annonce en particulier 50 millions d'euros pour financer les cotisations sociales d'un salarié pendant un an. Oh, Boudot prétend se préoccuper des petites entreprises. Mais le refrain est connu, ils nous font pleurer sur le sort des petites pour mieux arroser les plus grosses. Boudot, tout comme Wauquiez du Parti Républicain et Kéran, président sortant du PS de la région, doit d'ailleurs déjeuner en tête à tête avec le patron de Michelin, l'une des plus grosses boîtes de la région, pour prouver à ce grand patron qu'il sera totalement dévoué à ses intérêts. Cela doit servir d'avertissement à ceux des travailleurs qui se laissent tenter par le vote FN en se disant « cela, on ne les a jamais essayés » ou en croyant aux boniments et aux œillades d'une Le Pen ou d'un Philippot en direction des pauvres. Le FN divise et affaiblit le monde du travail en semant la haine parmi les travailleurs, en opposant les travailleurs immigrés aux nationaux, en accusant les migrants de tous les maux, et au pouvoir, il mènera la même politique anti-ouvrière que ses concurrents. Un événement de l'actualité récente a montré comment les dirigeants politiques de ces partis, du PS au FN, en passant par la droite, sont unis par la même haine de classe vis-à-vis des travailleurs. Je veux parler de ce qui s'est passé chez Air France. Cet épisode doit être une leçon de choses pour le monde du travail. Alors que les dirigeants d'Air France annonçaient 2900 suppressions d'emplois, provoquant la colère légitime des salariés, ce sont les salariés qui ont été traités comme des voyous, arrêtés à 6 heures du matin chez eux, pour deux malheureuses chemises déchirées. Puis, finalement, mis à pied sans salaire et maintenant licenciés pour faute lourde, c'est-à-dire sans aucune indemnité. Tous les dirigeants politiques des grands partis ont apporté illico leur soutien au DRH. Et tous ont condamné les travailleurs. Valls a traité les salariés d'Air France de voyous. Sarkozy a parlé de chienlit. Tandis que Maréchal Le Pen parlait de lynchage. Cet épisode montre la haine de classe de ces politiciens quand les salariés se défendent. Il faut le rappeler à ceux de nos collègues de travail qui envisagent de voter FN en croyant sanctionner les deux autres partis bourgeois. L'épisode d'Air France montre encore autre chose. Alors que les bourgeois ne manquent pas de partis politiques pour défendre leurs intérêts, de la gauche au FN, en passant par la droite et le centre, il manque dans ce pays un parti pour exprimer les intérêts politiques des travailleurs, pour porter leur voix sur tous les sujets qui touchent la société. Alors que chefs politiques et journalistes se déchaînaient contre les travailleurs d'Air France qui avaient le culot de ne pas accepter sans broncher d'être jetés à la rue, il a fallu plus de 48 heures pour qu'un porte-parole officiel des travailleurs, en l'occurrence le secrétaire général de la CGT, Martinez, prenne la parole pour soutenir, et encore bien timidement, les travailleurs d'Air France. Même pour simplement exprimer le sentiment de classe de millions de travailleurs, il manque de véritables porte-parole de nos intérêts, un véritable parti qui prendra le contre-pied de toute la propagande économique pro-patronale que l'on entend matin, midi et soir. Eh bien, les élections du 6 décembre doivent être une occasion pour les travailleurs de prendre la parole et d'exprimer sans ambiguïté leurs intérêts. En votant pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, ils diront qu'ils refusent d'être les sacrifiés de la crise, qu'ils ne supportent plus de subir plan de licenciement sur plan de licenciement, alors même que les entreprises font des profits, qu'ils ne sont ni trop payés, ni trop protégés et qu'ils travaillent déjà bien trop. Ils diront que ce n'est pas l'existence du Code du travail ni du CDI qui explique les plans de licenciement, mais l'avidité des actionnaires et des banquiers. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, la classe politique répète qu'il faut baisser les charges et subventionner le patronat pour l'aider dans la compétition internationale. Ce mensonge est rabâché comme une vérité absolue, incontestable. Eh bien, pour donner un exemple, il y a 35 ans, un patron payait en cotisation sociale, en charge, comme ils disent, 45% d'un salaire au SMIC. Aujourd'hui, en 2015, il n'en paye plus que 4,7%. Et quant à faire baisser le chômage, dans la même période, il est passé de 1 million à 6 millions. Les grands groupes profitent des pôles de compétitivité financés par la région, du CICE et du crédit d'impôt recherche financés par l'État. Ils sont arrosés d'argent public, ils étalent des bénéfices parfois éhontés et en même temps, ils suppriment des emplois par centaines, voire des milliers. Eh bien, les travailleurs doivent pouvoir dire que la seule façon de combattre le chômage, c'est d'interdire les licenciements et d'imposer la répartition du travail entre tous, sans baisse de salaire. C'est irréaliste, oui. Pour le patronat, toute mesure qui entame ses profits est irréaliste. Mais pour ceux qui se retrouvent à Pôle emploi, après un plan de licenciement, pour les jeunes qui ne peuvent pas être embauchés en sortant de leurs études, ce serait très réaliste, au contraire. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, les cadences et la charge de travail augmentent. Ceux qui ont un emploi se crèvent à la tâche, tandis qu'il y a des millions de chômeurs dehors qui ne demandent qu'à pouvoir travailler. Face à cette absurdité, il faut imposer la répartition du travail entre tous les salariés, sans baisse de salaire, et à commencer par l'embauche immédiate des intérimaires et des CDD. Pour les familles populaires, face à l'hémorragie des emplois, c'est une mesure vitale. Face à la baisse de notre niveau de vie, aux salaires gelés, aux pensions qui ne permettent pas de vivre décemment, il faut exiger une revalorisation des salaires et des retraites, il faut exiger leur indexation automatique sur l'inflation réelle. Pour financer ces mesures vitales, pour enrayer l'appauvrissement de tous ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, il faut prélever sur les profits et sur les dividendes de la grande bourgeoisie et de ses hommes de main. Combien d'emplois pourraient être créés et financés avec les 7 à 8 milliards d'euros de bénéfices annuels du groupe Sanofi? Combien de travailleurs pourraient avoir une augmentation de 300 euros avec les 14 millions de primes de départ que le PDG d'Alcatel a touché en septembre? Et nous réclamons aussi le contrôle des comptes des entreprises, la levée du secret des affaires, du secret industriel et du secret bancaire. Le secret permet aux banquiers et aux actionnaires de frauder à grande échelle vis-à-vis des États, de préparer en toute discrétion des plans de licenciement et des fermetures d'usines, de mettre en œuvre des projets nuisibles pour la collectivité, pour la santé publique ou pour l'environnement. Regardez comment, pour justifier les licenciements chez Air France, on nous a martelé qu'il en allait de la survie de l'entreprise. Eh bien, une semaine plus tard, on apprenait qu'Air France avait multiplié ses bénéfices par 6 au troisième trimestre. Le contrôle des travailleurs permettrait de vérifier que l'argent existe pour maintenir et les emplois et les salaires. Alors, bien sûr, les travailleurs ne pourront compter que sur leur propre force, sur leur lutte, leur mobilisation pour imposer un tel programme. Mais en attendant, ces élections régionales permettent de s'exprimer et voter lutte ouvrière, c'est approuver ce programme et le faire connaître. Si le soir du 6 décembre, notre liste avait recueilli plusieurs milliers de voix dans la région, cela regonflerait le moral de tous ceux qui ne baissent pas la tête, qui ne sont pas résignés face au recul de la société sur tous les terrains. Je bois un coup. Le regain de la combativité des travailleurs ne dépend pas de nous. C'est l'exploitation et la soif de profit sans limite qui finira par les provoquer. La crise économique et ses conséquences dans de multiples domaines pousseront tôt ou tard de nouvelles générations à chercher des explications et des solutions contre cette société capitaliste qui ne tourne pas rond et nous ramène en arrière. Nous en avons la conviction. Mais pour que les futures luttes des travailleurs ne finissent pas dans des voies de garage, pour que la jeunesse trouve des réponses à ces questions, il faut que les idées communistes ne disparaissent pas. Le capitalisme étale aujourd'hui sa faillite partout dans le monde, sur tous les terrains. Une poignée de grandes fortunes possède plus de richesses que la moitié du genre humain. Je crois qu'ils sont 60. Cette minorité qui possède les capitaux préfère racheter des sociétés déjà existantes et spéculer sans fin à travers les multiples bourses de la planète plutôt que de développer les forces productives qui permettraient de nourrir, loger, soigner, éduquer toute l'humanité. Le règne de la bourgeoisie, c'est la dictature des actionnaires sur la société, c'est la crise financière permanente, c'est la barbarie qui monte un peu partout dans le monde et qui atteint le cœur même de l'Europe et malheureusement hier, le cœur même de notre capitale, de la capitale. Et je tiens au passage à dénoncer la politique révoltante des gouvernements européens à l'égard des migrants, qu'ils soient réfugiés économiques ou politiques. Depuis plus d'un siècle, les grandes puissances occidentales se sont partagées le monde, ont pillé et repillé des continents entiers, installé puis lâché des dictatures infâmes pour mieux exploiter le pétrole ou d'autres matières premières. Ces grandes puissances, États-Unis en tête, mais toujours flanquées de la France, ont méthodiquement semé le chaos en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Afrique. Mais quand les victimes directes de leurs interventions militaires ou de leurs pillages tentent de fuir l'enfer pour trouver un refuge en Europe, les dirigeants européens installent des barbelés pour les arrêter. Ils ouvrent des camps de triage et de rétention. Jamais à court de cynisme, ils tentent d'opposer les travailleurs européens aux migrants quasiment rendus responsables du chômage et de la misère. Nous disons, pour notre part, que ces migrants font partie du monde du travail et nous devons les accueillir comme des frères de classe. Dès sa naissance, la classe ouvrière s'est constituée ainsi, en migrant, au gré des cycles économiques, vers les villes industrielles pour vendre sa force de travail. Le capitalisme a transformé la planète en une seule et unique entité économique, au sein de laquelle tous les pays sont interdépendants et tous les travailleurs liés entre eux. Ce constat faisait déjà écrire à Karl Marx et Engels en 1848 dans le Manifeste communiste « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Et il concluait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». C'est pourquoi les travailleurs conscients doivent exiger la liberté totale de circulation et d'installation pour tous dans le pays de leur choix. Les riches le font sans problème, alors pourquoi pas les pauvres ? Les travailleurs conscients doivent combattre tous les démagogues qui prétendent les protéger de la misère du monde en fermant les frontières ou en prétendant opposer le protectionnisme et le patriotisme économique à la mondialisation capitaliste. La seule façon d'échapper au chômage, à la misère, à la guerre, en Afrique comme en Europe, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir. à la dictature du capital, le mouvement ouvrier doit opposer l'expropriation des grands groupes capitalistes pour les réorganiser sous le contrôle des travailleurs et les faire fonctionner de façon rationnelle pour qu'ils servent à satisfaire les besoins de toute l'humanité. Le mouvement ouvrier doit renouer avec le programme révolutionnaire de ses débuts. Programme abandonné et trahi successivement et depuis belle lurette par les partis dits de gauche. Les élections sont une occasion de montrer à l'échelle de tout le pays qu'il existe des militants qui gardent comme programme le renversement du système capitaliste. Qu'il existe des hommes et des femmes qui ne renonce pas et qui s'attelle à la reconstruction d'un parti communiste révolutionnaire. Alors camarades, il nous reste 3 semaines pour convaincre autour de nous de voter lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Il faudra convaincre autour de nous tous ceux qui s'apprêtent à ne pas aller voter, tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien, que tous les politiciens sont les mêmes, qu'il doit faire ce geste politique. S'abstenir, c'est se bâillonner et c'est laisser la parole au seul larbin politique du patronat, qu'il soit de gauche, de droite ou d'extrême droite. A l'inverse, le 6 décembre, voter pour la liste lutte ouvrière contribuera, même modestement, à ce que la classe ouvrière se prépare à relever la tête. Alors en attendant, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée dans l'ambiance fraternelle de notre fête.